Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques pages extraites d'OK Joe, un roman de Louis Guillou paru chez Gallimard en 1976, disponible en poche et récemment réédité en folio 2 euros en 2022 avec une préface d'Éric Vuillard. Personne ne parlait dans la voiture, ni les deux lieutenants dans le fond, ni le chauffeur près duquel j'étais assis. Il pouvait être dans les 3 heures de l'après-midi. Nous venions de quitter la mairie où les lieutenants étaient venus me trouver. Dès en entrant dans mon bureau, le plus âgé des deux m'a demandé si j'étais bien l'interprète du maire. Lui ayant répondu que oui, les lieutenants se sont présentés. Lieutenant Stone, lieutenant Bradford. Je les ai priés de s'asseoir. Ils ont refusé. Le lieutenant Stone m'a demandé si j'étais bien aussi celui qui, la veille au soir, avait parlé avec un de leurs hommes à la porte du collège de jeunes filles. Il a précisé, « Avec Bill ?»« Oui, c'était bien moi. »« Avec Bill Cormier ?»« Oui. » »« Ok. » »« D'après Bill, il paraît que vous n'avez pas grand-chose à faire à la mairie ?» C'était vrai aussi. Je n'avais même rien à faire du tout. Dans ce cas, peut-être pourriez-vous nous rendre un grand service? Ils partaient à l'instant en mission et ils avaient besoin d'un interprète. Alors, la Jeep était devant la porte. Le plus jeune des deux, le lieutenant Bradford, me faisait l'effet d'un grand adolescent d'une trentaine d'années, très soigné, très distingué, d'allure plutôt britannique, un blond au teint de jeune fille, aux yeux bleu pâle. Il souriait avec beaucoup d'affabilité. On comprenait tout de suite en le voyant qu'il devait avoir toujours et partout d'excellentes manières. Son collègue, un peu plus âgé, paraissait plus solide, à cause de ses larges épaules et de la manière dont il se tenait planté sur ses jambes. À cause aussi de ses gros cheveux noirs et du poil vigoureux qui recouvrait ses poignets et jusqu'aux dernières phalanges de ses doigts. Il avait de très belles mains, mais les traits de son visage étaient un peu forts, sa bouche gourmande, ses yeux très noirs. Il souriait lui aussi très gentiment en attendant ma réponse. J'ai répondu que oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais il me fallait d'abord informer M. Royer, notre nouveau maire, et obtenir de lui la permission. J'ai téléphoné. M. Royer m'a répondu que oui, puisque je n'avais rien à faire. Et j'ai suivi les lieutenants. La Jeep était en effet devant la porte, le chauffeur au volant. On est monté. Les lieutenants se sont installés derrière et moi à côté du chauffeur. « Ok, Joe ». A dit le lieutenant Stone. Joe a embrayé tout de suite et personne n'a plus dit un mot. Il n'a pas été bien facile de sortir de la ville. Il y avait foule partout, sur la place devant la mairie, pour commencer, qui est aussi la place de la préfecture. La foule était là en permanence depuis le début et dans le centre de la ville, mais Joe a très bien réussi à se débrouiller sans impatience. Dès que nous avons quitté le centre, les choses sont allées normalement et une fois sur la route, Joe est allé bon train. Toujours sans un mot, mais avec un clin d'œil, Joe m'a filé une boîte de Prince Albert et j'ai bourré ma pipe. Où allions-nous? Il faisait un très beau soleil du mois d'août. Sur la route, nous ne rencontrions personne et pas un avion dans le ciel. Nous sommes passés devant les restes d'un camion incendié. Joe conduisait vite et très bien. On aurait dit qu'il connaissait la route aussi bien qu'un homme du pays. Il savait où il allait, les lieutenants aussi, pas moi. Je ne l'avais pas demandé, pas plus que je n'avais demandé quelle était cette mission pour laquelle ils avaient besoin de mes services. Après une bonne heure de route, Joe a tourné à gauche. Il s'est engagé dans un chemin creux bordé de hauts talus plantés de chênes. Après la grande lumière de la route, c'était la pénombre et la fraîcheur sous les feuillages, et à bord de la Jeep, le même silence. Le lieutenant Stone étudiait un dossier qu'il avait tiré de son porte-document. Nous sommes arrivés dans un hameau. Toujours aussi sûr de lui, Joe est entré dans une grande cour pleine de soleil. Au fond de la cour, une maisonnette, quatre murs et un toit d'ardoise. Dans le mur donnant sur la cour, une porte et, à gauche de la porte, une fenêtre. Joe a stoppé. Le lieutenant Stone a remis son dossier dans son porte-document. Il est descendu le premier. Le lieutenant Bradford l'a suivi. Je suis descendu à mon tour. Joe est resté au volant. Le lieutenant Stone, son porte-documents à la main, s'est approché de la porte. Il a frappé. Une grande paysanne d'une cinquantaine d'années, assez forte, tout en noir, a ouvert. À la vue de cette femme, nous avons tous eu le même mouvement de recul. Son visage était comme écorché, son front, sa joue gauche, son menton criblé de taches écarlates. « Je vois bien qui vous êtes », nous a-t-elle dit d'une voix douce en s'effaçant. « Entrez. » La maisonnette ne comprenait qu'une seule pièce, au sol, de terre battue. Au fond de la pièce, une jeune fille occupée devant un fourneau. Elle ne s'est pas approchée. Il s'est passé ici une très sale affaire, m'a dit le lieutenant Stone en déposant son porte-document sur la table. Voulez-vous demander à cette femme ? Il voulait savoir, entendre de la propre bouche du témoin s'exprimant dans son propre langage. Ask the witness to tell in his own words. D'où provenaient ces écorchures qu'elle portait sur le visage. Avec grande douceur, la paysanne a répondu qu'elle provenait des éclisses de bois que la balle avait arrachées en trouant la porte. Le lieutenant Stone et le lieutenant Bradford, qui examinaient les lieux, ont échangé un regard. « Oui, c'est donc bien ça, » a dit le lieutenant Bradford. Ensuite, a repris le lieutenant Stone en s'adressant à moi, « Ask the witness, » demandez au témoin. La paysanne a continué en disant que le fracas de la décharge l'avait étourdie et qu'elle ne s'était pas rendue compte tout de suite que son mari s'était écroulé à ses pieds. « Horrible !» a murmuré le lieutenant Stone. « Tout à fait horrible !» Il est allé s'asseoir devant la table, il a ouvert son porte-document d'où il a tiré son dossier qu'il a étalé devant lui. Le lieutenant Bradford continuait à se promener à travers la pièce en regardant partout. La jeune fille, une belle paysanne de 20 ans, un peu forte, le teint très vif, restait toujours à son fourneau. « Ask the witness. » Demandez au témoin. À quelle heure le drame s'est-il produit? La nuit était-elle tombée? La jeune fille s'était-elle rendue au camp? Avait-elle parlé à l'un des hommes? Ask her. Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Pourquoi n'y serait-elle pas allée comme les autres? Tout le monde y était allé. A-t-elle parlé à l'un d'eux? Non, a répondu la jeune fille. Mais il l'a suivie, dit le lieutenant Bradford en s'approchant. Savait-il où elle habitait? Il vous a suivi? A demandé le lieutenant Stone. La jeune fille ne le savait pas, elle ne s'était pas rendue compte. Après cette réponse, il y a encore eu un moment de silence. Le lieutenant Stone a jeté son crayon sur ses papiers, il avait noté toutes les réponses de la mère et de la jeune fille, et, se renversant légèrement dans sa chaise, il a pris la pose d'un homme qui s'apprête à écouter un long récit. À présent, Demandez à la mère de nous raconter comment les choses se sont passées. » La mère a tourné la tête à droite, puis à gauche. Elle a levé faiblement la main, montrant les quatre murs de la pièce, dont un seul possédait deux ouvertures, la porte et la fenêtre. « Voyez, c'est là que nous avons toujours vécu. Il allait faire nuit, on s'apprêtait à se coucher quand on a entendu marcher dans la cour. » Ils avaient d'abord cru que c'était un voisin qui venait leur demander un service ou leur apprendre une nouvelle. Mais par la fenêtre, la jeune fille avait aperçu la silhouette d'un soldat. Le soldat avait appelé « Mademoiselle !» Aussitôt, la mère avait fermé les volets tandis que le père verrouillait la porte. On a tout de suite compris que c'était un des soldats du camp. Le père a crié au soldat de s'en aller. « Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous. » Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat, si, par exemple, il ne l'avait pas traité de « sale nègre ». Non, on lui a dit de s'en aller. Le témoin croyait-il que le soldat était ivre à ce moment-là? La mère n'en savait rien. Comment aurait-elle pu le savoir? Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que le soldat, devenant furieux, s'était mis à cogner dans la porte à grands coups de pied. La peur les avait pris. Sur l'ordre du père, la jeune fille éteint la lumière et va se cacher dans un coin près de l'armoire. « Là, » dit la mère en montrant l'endroit. De plus en plus furieux, le soldat cogne toujours en appelant « Mademoiselle !» Ils se sont dit que la porte allait céder. Le père et la mère, s'accotant contre la porte, sont restés là longtemps à pousser. « Combien de temps ?»«
Je ne sais pas. Il cognait très fort. D'abord, c'était à coups de pied. Après, avec autre chose. Le père m'a dit d'aller chercher la hache, mais je n'ai pas osé lâcher la porte. »
La mère a crié à sa fille d'aller chercher la hache. La fille y est allée, mais elle ne l'a pas trouvée. Il aurait fallu rallumer. C'est avec la crosse de son fusil qu'il cognait, a repris la mère. Le père l'avait compris avant moi.
Longtemps ?
Oui, assez longtemps. La porte tremblait, on poussait toujours. Il s'est arrêté. On l'a entendu marcher et on a cru qu'il s'en allait. C'est là qu'il a tiré dans la porte. Le père s'est écroulé, la moitié du crâne enlevé. La mère n'avait pas compris tout de suite. Elle s'était écroulée aussi, mais elle avait d'abord pensé que quelque chose lui était tombé sur la tête. Elle ne savait pas, elle était étourdie. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle était couverte du sang et de la cervelle de son mari et qu'elle avait la joue à moitié enlevée. Dans son coin, la jeune fille s'était mise à hurler.
Seven trees. Barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant South, them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, clean and fresh, then the sudden smell of burning flesh. the fruit. For the crows to pluck. For the rain to gather. For the wind to suck. For the sun to rot. For the leaves to drop.
À voix haute, Meredith Ledez.
Bon, arrêtons-nous là, a dit le lieutenant Stone. C'est horrible, tout à fait horrible. Dites-lui que nous regrettons d'avoir à lui poser toutes ces questions. Dites-lui aussi que le coupable est arrêté et qu'il sera jugé dans 2 ou 3 jours. Il m'a semblé que personne ne savait plus quoi dire ni quoi faire. Les deux femmes, croyant que les officiers en avaient terminé, ont offert la collation. Ils n'allaient pas refuser de prendre une tasse de café et de manger une tartine de pain et de beurre. Ils ont refusé très poliment. D'un ton brusque, le lieutenant Stone a demandé si on avait retrouvé la balle. « Il me faut cette balle !» s'est-il écrié en se levant d'un air plein d'autorité. La balle était forcément dans la pièce. On devait la retrouver. « Ask her, ask the witness. » Demandez-lui si on l'a cherchée. « Vous avez cherché la balle ?»« Oui, avec des voisins. »« Et vous ne l'avez pas retrouvée ?»« Non. » « Il me faut cette balle !» a répété le lieutenant Stone avec encore plus de force. Le lieutenant Bradford s'est accroupi devant la porte pour examiner la déchirure que la balle y avait faite. Quelle trajectoire avait-elle suivie ? À son avis, c'était derrière l'armoire qu'il fallait la chercher. Peut-être même dans l'armoire ? Mais les deux femmes avaient déjà fouillé l'armoire et n'y avaient rien trouvé. Elles avaient regardé partout, derrière le fourneau, sous les lits. « Il me faut cette balle, absolument !»« Je les ai laissées chercher la balle et je suis sortie dans la cour. » Quelques paysans du voisinage se trouvaient là, entourant Joe, descendu de la Jeep, qui leur offrait des cigarettes. En me voyant, Joe s'est avancé et les paysans l'ont suivi. L'un d'eux m'a demandé si on avait arrêté le gars. Je lui ai répondu que oui. Ils ont voulu savoir qui étaient les officiers et ce qu'ils étaient venus faire. Une enquête. Pour le moment, ils cherchent la balle. Joe savait qu'il s'agissait d'un meurtre, mais qui était le meurtrier ? Un noir, Joe. Sale bâtard. Et les officiers, qui sont-ils, Joe ? Justice militaire. Le lieutenant Stone est le procureur, le lieutenant Bradford, l'avocat. J'ai expliqué cela aux paysans. L'un d'eux m'a demandé « Et vous ?» Un interprète. Pas des mauvais types, les deux lieutenants, pas du tout des mauvais types, vous savez, m'a dit Joe. Un jeune paysan s'est approché de moi d'un air embarrassé. Il a sorti de sa poche un vieux porte-monnaie à fermoir de cuivre d'où il a tiré la balle. V'là la balle. J'aurais bien voulu la garder en souvenir, mais plutôt que d'avoir des ennuis. J'ai pris la balle et je suis rentrée dans la maison. J'ai donné la balle au lieutenant Stone. Il s'est écrié « J'ai trouvé la balle !» Tenant la balle entre le pouce et l'index, il a levé la main très haut pour la regarder et la montrer. Il a empoché la balle en disant « Excellent !» Sur le chemin du retour, les deux lieutenants ne sont pas restés muets comme en venant. Quelle horrible affaire! Pauvres gens, pauvre père, pitoyable. Et le meurtrier d'à peine 20 ans? On allait le pendre, bien sûr. Personne ne pouvait le tirer de là. Horrible en vérité. Mais pouvait-on laisser violer et assassiner les gens? Mais aussi, ces jeunes idiots de noir n'avaient jamais eu plus de cervelle que les petits oiseaux. Et toujours prêts à se damner pour une femme blanche. Ils n'avaient pas besoin d'avoir bu pour ça. Et celui-ci n'était probablement pas ivre ce soir-là. Il avait affirmé que non lors de son premier interrogatoire. Il prétendait ne s'être jamais douté qu'il y eût personne derrière la porte. Il n'avait pas eu l'intention d'être méchant. Il ne voulait que donner une leçon à ces gens-là. Quand il s'était mis à suivre la jeune fille, il n'avait pas de mauvaises intentions. C'était ce qu'il disait. Difficile à croire quand même. Et pourtant, why not? Pourquoi pas? Il prétendait n'avoir jamais rien voulu de plus que passer un bout de soirée avec la jeune fille, boire un verre. Il l'eût embrassée si elle avait été d'accord, ça oui, mais c'est tout. Quant au fusil qu'il avait emmené, on ne devait pas oublier qu'il était interdit aux soldats américains de sortir sans leurs armes, à cause des snipers, c'est-à-dire des francs-tireurs allemands et autres qui rôdaient encore dans le pays. Il disait qu'il s'était mis en colère parce qu'on avait eu peur de lui. Pourquoi avait-il eu peur? Parce qu'il n'était qu'un noir? Si on lui avait ouvert la porte et offert un verre, si on ne l'avait pas traité comme un sale nègre? On ne l'avait pas injurié, c'est vrai, mais ça revenait au même et il le savait bien, lui. Ces gens-là eussent ouvert leur porte à un blanc. Le lieutenant Stone répétait qu'il y avait sûrement du vrai là-dedans, mais que c'était difficile à croire malgré tout quand on connaissait les Noirs. Ils disaient tous des choses comme ça dans certains cas. Pauvres types, mais ils sont tous de sacrés damnés menteurs, vous pouvez me croire. On reviendrait chercher les deux femmes pour qu'elles puissent témoigner devant la cour martiale. « Où avez-vous trouvé la balle ?» m'a demandé le lieutenant Bradford. « Dans le porte-monnaie d'un voisin. » Au moment de nous quitter devant la mairie, les lieutenants m'ont remercié et invité à dîner avec eux aux messes si je voulais les rejoindre au collège de jeunes filles à 7 heures. Ensuite, nous irions au cinéma. On avait installé un cinéma dans la salle des fêtes du collège et on y donnait de sacrés bons films. Tout aimable que fût leur invitation, je n'ai pas cru devoir l'accepter. Ils n'ont pas insisté. Ils m'ont répété que je leur avais rendu un grand service. « You did a good job !» Ils reviendraient peut-être me chercher un de ces jours pour une autre mission, si j'étais d'accord. Alors bonsoir, à bientôt de toute manière. C'est ça, à bientôt, bonsoir. Merci, à bientôt, à demain peut-être. Bonsoir Joe. « Ok, bonsoir, » m'a répondu Joe. « Ok, » a dit le lieutenant Stone. « Ok, Joe. » Et Joe a embrayé aussitôt. En rentrant au bureau, j'ai appris qu'en mon absence, le town major, autrement dit le commandant de la place, était passé pour me voir et qu'il reviendrait le lendemain en fin de matinée. J'ai appris aussi qu'un grand bal devait avoir lieu dans la soirée au jardin public. Comme je sortais de la mairie, il n'était pas loin de 6 heures du soir, je me suis trouvée face à face avec Bill, un jeune étudiant de Chicago avec qui j'avais bavardé la veille à la porte du collège de jeunes filles, un jeune colosse sympathique, mais l'arme à la bretelle. Il venait me chercher pour m'emmener au cinéma. Je lui ai répondu comme au lieutenant, « Merci, Bill. » « De sacrés bons films, quand même, vous savez, » m'a-t-il répondu à son tour. Et alors, vous avez vu les lieutenants? Oui, ils sont venus me trouver. Pourquoi sortez-vous avec un fusil? Ce sont les ordres, à cause des francs-tireurs, même si on ne fait qu'un petit tour. Bon alors, les lieutenants, ce sont de bons types, n'est-ce pas? Sympathiques. Je les ai accompagnés. Oh, une enquête? Oui. Quel genre? Meurtre. Je pensais, ou quelque chose comme ça. Vous allez rester avec eux? Je ne sais pas, Bill, ce n'est pas bien un travail pour moi. Pourquoi? Vous pouvez faire un très bon interprète, pour sûr.
Peut-être, mais je ne sais pas.
Oh, je vois. Et la victime, l'un des nôtres ?
Non, le meurtrier. La victime est un paysan.
Oh, je regrette d'entendre, affreux.
Mais il faut s'attendre à ces choses-là, malheureusement.
Une rixe ? L'alcool ?
Non,
une fille.
Oh, je vois.
En apprenant que le meurtrier était un noir,
« Oh !» s'est récrié Bill, « je vois, on ne devrait pas donner de fusil à ces gens-là, tous irresponsables. »«
Vous reverrez les lieutenants ?»«
Peut-être. »«
Ok, j'espère vous revoir. J'ai des tas de choses à vous dire, heaps of things. »«
Nous resterons encore ici 2 ou 3 jours, je pense. »«
Vraiment, vous ne venez pas avec moi au cinéma ?»«
Non, Bill, merci, pas ce soir. »«
Ok, tout à fait normal, bonsoir donc. »
On entend de la musique, qu'est-ce que c'est, une fête ?
Oui, un bal, au jardin public.
Oh, je pensais, à demain peut-être.
À demain, Bill, bonsoir.
À demain, j'espère.
Nous nous sommes quittés devant la porte du collège de jeunes filles. Bill est parti en courant. Il n'avait pas envie de rater son cinéma. C'était OK Joe, un roman de Louis Guillou paru chez Gallimard en 1976, disponible en poche et réédité récemment chez Folio 2 euros avec une préface d'Éric Vuillard. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical la chanson Strange Fruit interprétée par Nina Simone. Quant à moi, je vous souhaite un agréable dimanche soir. Et je vous dis au prochain week-end pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.